Je profite du trajet et d'avoir le micro en main pour aussi réfléchir à une idée qui me paraît intéressante, c'est de distinguer les désobéissances dans les périodes de routine de la guerre et dans les périodes d'événements très denses, hein, la retraite de 1914, la défaite de Caporetto, etc. Je pense que là, il y a une variable, à mon avis, qui est très très importante dans la prise en compte de ces phénomènes.
Ce que vient de dire André n'est pas tout à fait. Oui, je suis Christian Chevandier. Et ce que vient de dire André n'est pas tout à fait. N'est pas très éloigné de questions que je me pose. À plusieurs reprises, j'ai vu qu'il a été fait mention, en fait, pour une mise en perspective, à des comportements liés à la hiérarchie en milieu professionnel. Et puis c'est vrai que ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'officier incapable qui limoge son subalterne, bah, ça peut évoquer par exemple ce qui pouvait arriver aux lampistes dans les compagnies de chemin de fer lorsqu'il y avait un accident, c'était le lampiste, c'est-à-dire le moins gradé, hein, le cheminot. Qui généralement était sanctionné. La question en fait que ça peut que enfin une des pistes que ça peut ouvrir, c'est celle peut-être d'autres méthodes en sciences sociales qui ont été efficientes dans d'autres domaines. Je pense par exemple à la psychodynamique du travail telle qu'elle se fait autour de Christophe Dejour et de son équipe au CNAM. Ça pourrait peut-être nous permettre de répondre à des questions qui sont du même ordre. Lorsqu'il a été question tout à l'heure des officiers qui, à la fin de la guerre, étaient beaucoup plus que leurs prédécesseurs sortis du rang ou anciens sous-officiers, c'est aussi ça renvoie aussi à une typologie de l'encadrement dans le monde du travail. Alors, justement, ça va m'amener à poser cette question qui me préoccupe un peu depuis ce matin. Dans les usines, il était très très rare qu'un ouvrier devienne contremaître dans le même atelier. Dans la police, un gardien devenait brigadier dans son commissariat. Est-ce que les hommes du rang, les sous-officiers, les officiers, est-ce qu'ils prenaient du grade dans leur unité? Et dans ce cas-là, quel était l'effet que cela avait sur les méthodes de commandement?
Oui, on reprendra cet après-midi et il me semble que grâce tout d'abord au travail qu'ont fait nos 12 auteurs de communication ce matin, grâce aussi aux deux commentateurs que nous avons vraiment ouvert des pistes, il me semble que nous avons d'abord esquisser la complexité de ces systèmes de discipline militaire qui avait une qualité formelle, mais qui à côté avait toute une série de possibilités informelles de renégociation, de négociation, etc. Et les différences aussi selon les différents types de soldats. Est-ce que les volontaires, par exemple, comprenaient la discipline dans la même façon que d'autres soldats que les appelés? Deuxièmement, nous avons vu qu'il y a un contexte qui est tout à fait important dans lequel s'inscrit ces systèmes de discipline militaire. Il semble, d'après nos débats, que ces systèmes ont bien sûr un pouvoir autoritaire qui, par moments, peut être écrasant, mais qui, d'autre part, ne sont pas du tout des systèmes étanches. Il y a des rapports, des références à une société plus large, à un monde plus large constitué de plusieurs choses, dont la légitimité politique, et aussi les buts de la guerre, et donc un troisième contexte, et qu'on a pas peut-être souligné suffisant, mais de temps en temps ça a été évoqué, c'est l'évolution de la guerre. Donc selon le front, selon la période de la guerre, donc le système de discipline et le sentiment de son rapport avec cette légitimité politique a considérablement varié. L'après Caporetto n'était pas l'avant Caporetto, l'après les mutineries françaises n'était pas exactement la même chose que la situation avant. Donc voilà, il me semble que le débat est largement ouvert. Je remercie tous nos participants et vous aussi l'auditoire. Merci bien.